Bonjour à tous. Bonjour. Pour certains, vous me connaissez. D'autres, peut-être pas. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, comme tu l'as dit, on habite avec Lydie et nos trois filles à côté de Montpellier, à Lansargues, justement. C'est là où il va se passer le hub. Mais je ne savais pas, d'ailleurs, que ça allait se passer là. Ce n'était pas par rapport à moi ou par rapport à où j'habite. Donc, du coup, on est à Montpellier depuis 6 ans maintenant. Voilà, on a trois filles, donc 3 ans, 7 ans, 10 ans bientôt, et je m'ennuie pas, voilà, on s'ennuie pas avec Lydie, mais c'est une grâce d'avoir des filles aussi merveilleuses. Pour me connaître un petit peu, je travaille dans l'informatique, je suis formateur logiciel, et le reste du temps, je m'occupe de l'église, la source et de ma famille. Donc, voilà, ça occupe, vous imaginez bien. Vous avez du coup les salutations de l'église La Source, de l'équipe des anciens, Stuart Radley et tous les autres anciens. On est content justement de vivre des événements ensemble et dans 2 semaines on aura ce hub, donc on se reverra et tous ensemble. Ça fait plaisir de vivre des choses partagées. Et ce que j'aime beaucoup dans notre famille d'église Newground, c'est qu'on ne fait pas les choses tout seul dans notre coin, c'est qu'on bénéficie les uns aux autres. Alors j'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir bénéficier, enfin je ne sais pas comment, j'arrive pas à le dire, que ça porte du fruit pour vous. Ok ? Alors, est-ce que tu peux afficher, on a un vidéo, ouais, tu as une petite première image. Ah, tout de suite, ça commence bien. Alors, je vais vous poser une petite question pour commencer. Est-ce qu'il y a ici des amateurs de vin, c'est-à-dire de la dégustation de vin, ok ? Ouais ? Super. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de boire une bouteille où vous pouvez dire c'est incroyable, enfin c'est vraiment extrêmement bon, etc. Ouais, ça vous est déjà arrivé ? Ouais, super. Ok, eh ben moi ça m'est déjà arrivé aussi, et c'est justement cette bouteille-là, enfin en tout cas de ce millésime-là. En fait, à l'époque j'habitais à côté de Valence et je travaillais à côté à Terre-l'Ermitage. Connaissez. Et là-bas, il y a des appellations de fou. Une appellation de vin Ermitage. Alors, je ne fais pas de la pub. Hein, c'est bon, voilà. De toute façon, c'est très cher. Donc, voilà. Il faut appeler votre banquier si vous voulez acheter la bouteille. En fait, au niveau du travail, je n'aurais pas dû être là. Mais ça s'est passé comme ça. J'ai été invité à une soirée où je n'aurais pas dû être là. Et à cette soirée-là, il y avait une dégustation de ce vin-là. Et il y avait un des directeurs de Paul Jaboulet aîné qui nous a fait goûter ça, alors qu'on n'aurait pas dû le faire. Et cette bouteille, je ne sais plus combien elle vaut, 700 €, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, on nous a donné juste un tout petit... En fait, on ne pouvait pas se servir, c'était un truc où on vient se servir comme ça. Et honnêtement, avant de boire ce vin, je m'étais dit, non, mais ils en font des tonnes, clairement. J'en suis sûr, c'est bon, c'est... Enfin, moi, je suis sûr qu'avec une bonne bouteille de 10-15 €, tu peux déjà avoir quelque chose de super, et après, le reste, ils exagèrent. Enfin, voilà. J'ai été choqué. J'ai été choqué. Je ne pense pas avoir bu quelque chose d'aussi bon à l'intérieur, qui a coulé à l'intérieur de moi, dans ma gorge, etc. Et j'avais l'impression de boire un élixir, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comme si je n'étais pas fait pour vivre un truc aussi énorme. Alors, je ne fais pas de la pub pour ça, mais je vous dis que, en fait, je pense que, en tout cas dans cet exemple-là, eh ben, on peut porter un fruit, on peut porter quelque chose à son maximum, et ça a bon goût, et c'est extraordinaire. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, ouais, je vous ai donné l'image, aujourd'hui, on va parler de la parabole de la vigne et les sarments. Et donc, du coup, évidemment, ça parle de raisins et ça parle aussi du bon vin qu'on peut faire avec de très, très bons raisins. Et on va regarder ensemble vraiment cette parabole. Je pense que beaucoup la connaissent, mais je vais insister beaucoup sur la partie portée du fruit, sur cette expression portée du fruit, bon, abondant, durable. en restant attaché à Dieu. Et on va prendre ce texte. Est-ce que Pierre, tu peux peut-être lire le texte? Alors c'est affiché sinon. Ouais.
Moi, je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres.
Merci Pierre. Je vais juste prier. Seigneur, merci pour ce texte, merci pour ta parole, Seigneur. Je te prie que c'est ta parole, Seigneur, qui nous transforme, qui nous purifie, Seigneur. Merci pour ces choses qui datent depuis tellement longtemps, mais qu'on peut entendre encore aujourd'hui. Et ce sont les paroles de notre cher Jésus. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse l'entendre de façon nouvelle. Ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, afin qu'on puisse être encore transformés par ta parole. Amen. Ok, super parabole. Et premier point, j'aimerais dire donc en introduction que c'est au verset 1, « Moi, je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron. » Donc ici, dans ce contexte-là, en fait, dans cette parabole, Jésus parle aussi de lui à l'intérieur. La taille de la vigne, bon, je ne vous demande pas tous d'être des vignerons ou d'être des spécialistes. Mais il y a certaines choses à comprendre pour comprendre ce texte-là, et notamment que la vigne ou beaucoup d'autres plantes, pour qu'elles portent du fruit et pour qu'elles grandissent vraiment bien, il faut les tailler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, voilà ce que ça peut devenir à gauche, avant taille. Une vigne non taillée, ça part dans tous les sens, ça ressemble à rien, et apparemment ça produit des fruits, des raisins tout petits et qui sont apparemment pas super bons. Pas forcément, voilà. Et donc, du coup, c'est assez parlant par rapport à ce texte-là. Et donc, on coupe pour garder quelques bourgeons pour l'année prochaine. Et après, il y a une nouvelle pousse. Et après, il y a le raisin qui arrive après. Donc, en fait, on garde certains, on ne garde pas tout. Et on garde quelques bourgeons et pour avoir des fruits qui vont être plus gros, qui vont être plus bons et qui vont donner un merveilleux vin, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, en fait, la taille, ici, elle permet de réguler un peu la production, de favoriser la qualité du raisin, structurer la plante, tout ça, et même, d'ailleurs, d'éviter les maladies en aérant les branches, etc. Donc ça, c'est, c'est le côté, on va dire, du jardinier, du vigneron, etc. OK ? Donc ça, c'est pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne ici. Je vais passer au deuxième point maintenant. Demeurez en moi. Au verset 4, Jésus il dit « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. » C'est même encore plus dur que même l'image que je vous ai donnée. C'est que l'autre, il porte un peu de fruit, mais là, c'est même aucun fruit sans moi. Et là, en fait, demeurer, dans ce texte-là, il l'utilise 10 fois. En fait. Donc, il insiste, Jésus, il en parle plusieurs fois. Et donc, là, il insiste sur une notion qui est centrale dans notre foi chrétienne, c'est la relation. La relation, ici, quelque part, entre le Fils et le Père, et la relation entre le Fils et ses disciples de l'époque, et la relation entre les croyants dans la communauté. Et en fait, Dieu, il dit, si... Il nous pousse à nous attacher fidèlement à lui. Il nous pousse à venir puiser en lui. Là, on va encore plus loin. Puiser, c'est fort. Je ne sais pas si vous avez des relations des relations fortes. Puiser, c'est-à-dire d'avoir les ressources de quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre nous donne la force, c'est fort. Ça, c'est un niveau relationnel élevé. Ça peut être dans les couples, ça peut être dans les grandes amitiés, ça peut être à l'église. Et ça, c'est demeurer, ça, quand Jésus dit, quand il dit ça. Demeurer, ça veut dire que quelque part aussi, la vie qui est en Jésus va venir en nous. Comme la sève du tronc qui passe dans les branches, c'est cette sève qui va venir et qui va donner la vie au serment. Donc Jésus il dit qu'il est la vie et que sans cet attachement au cep, ce qui est logique, en fait, on ne pourra pas donner vie comme lui. C'est même pas la peine d'essayer. Jésus nous dit que, en fait, restez attachés à moi et alors la vie sortira de vous. Quand je pense à cette expression de demeurer, quand Jésus il en parle, honnêtement, ça me fait penser à votre communauté. Ça fait plusieurs années qu'on vous suit, qu'on a fait l'académie, on a fait des événements ensemble. Je passe du temps aussi avec les anciens de votre église. Et il y a ce côté relationnel, communautaire, que j'apprécie énormément. Et là, je prêche sur ça, mais presque c'est peut-être vous qui devriez m'expliquer comment faire pour mieux demeurer les uns avec les autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose de précieux que vous pouvez garder. Et je prie que, en fait, ce soit quelque chose que vous pouviez aussi transmettre. Ben, vous commencez déjà à le faire transmettre à nous, à l'Église La Source et à d'autres communautés autour de vous et aussi dans vos relations. Donc, merci pour ça. Merci pour ce côté de demeurer. Ça va, vous êtes toujours avec moi ? Il y a aussi cette notion, il utilise plusieurs expressions comme purifier dans sa parole ou le fait que, en fait, le fait d'être dans la présence de Dieu, d'être attaché à lui, nous sommes transformés. Transformés à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe. C'est que ce sarment qui aurait pu être inutile, il est porté à ce meilleur. Et je vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Lydie qui est là, ma femme, passait un temps, continue de temps en temps à faire passer des méditations avec de la Bible. Et donc du coup, c'est la Bible mais en vocal. Et honnêtement, j'aime pas trop. J'aime bien le côté livre, le côté même dans les téléphones. Mais écouter la Bible comme ça en vocal, pour moi, c'est, je sais pas, j'ai un petit blocage par rapport à ça, je vous l'avoue. Et elle le faisait passer, elle me dit, est-ce que ça te dérange si je fais passer ça avant de dormir et tout, etc. Et moi, souvent, je fais autre chose dans le lit à côté. Et au début, j'aimais pas trop, parce que j'aimais pas la façon dont il parlait et tout, etc. Et puis, petit à petit, bah, en fait, j'aime trop, c'est génial, en fait. Et en fait, à force, finalement, de méditer, d'entendre, malgré moi, quelque part, en fait, ça a commencé à me changer, à me transformer, et j'aimais vraiment entendre la parole, mais finalement, un peu comme je vous en ai parlé, comme quelque chose de doux, de bon, comme un fruit bon qui était en train, petit à petit, de me transformer, justement, parce que là, ici, dans le texte, c'est la parole qui vient, qui purifie, c'est la parole qui vient et qui vient nous transformer de l'intérieur. Et je crois que prononcer les paroles de la Bible régulièrement, à haute voix ou par méditation ou vocale ou lisez, dans tous les cas, ça transforme. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Ok, demeurez en moi afin de produire du fruit. Donc là, je vais aller au deuxième point. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Donc, demeurer en Jésus n'est pas une fin en soi. C'est excellent d'être avec Jésus. Mais très vite, Jésus parle d'un objectif. Il parle de... En fait, c'est pas la fin de l'histoire. C'est sauver, être avec Jésus et pardonner, c'est la première partie de l'histoire. Mais après, nous attend une vie de disciple, une vie avec Dieu tous les jours. Et là, c'est la même chose. Afin de porter du fruit. Et il y a un objectif, en fait, finalement, qui est supérieur à nous-mêmes. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit ? Honnêtement, cette question, je me suis bien gratté la tête. Cette question, en fait, elle n'est pas si simple que ça. Elle n'est pas textuelle ou facile, on dirait en trois points, comme ChatGPT, vous répondrez pas, porter du fruit, c'est ça. Non, c'est bien plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça parle de plusieurs choses aussi dans la Bible. Mais je vais essayer quand même de vous donner quelques éléments en fait, qui sont dans la Bible et dont parle cette parabole. Mais moi, je pense que c'est volontaire qu'on n'arrive pas totalement à le définir aussi, on va dire, de façon cartésienne, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de limite à cette idée de porter du fruit. Donc, première chose, quand même, premier principe, porter du fruit, c'est obéir aux paroles de Jésus. C'est s'aligner, en fait, sur la volonté de notre Père dans le ciel. S'aligner sur le cœur de Jésus, etc. Et donc, du coup, ça se manifeste par une obéissance. Donc, porter du fruit, ça commence par, oui, demeurer, mais aussi une forme d'obéissance et de savoir que, en fait, je suis ce qui est sur le cœur de mon Père. Je suis ce qu'il y a sur le cœur de Jésus. Et notamment, de ce qu'il dit à la fin, s'aimer les uns les autres, qui est un des principes. Et donc, si je rentre dans cette obéissance, si je m'aligne sur sa volonté, si ma volonté est dans la scène, si je mets au rythme de Dieu, alors je vais porter du fruit. Je vais être ce fameux sarment que Jésus parle. Ça va ? Premier principe. Deuxième principe, porter du fruit, c'est une manifestation extérieure d'un changement intérieur. Alors, c'est mieux que les bio de Danone, etc., où tu le prends et ça te transforme. Non, c'est pas une pub non plus. Vraiment, porter du fruit, en fait, c'est un processus naturel de quelque chose qui se passe dans nos vies. Et en fait, donc du coup, porter du fruit, on ne doit pas forcément être en mode s'affairer. Je sais pas comment dire, on n'est pas des jardiniers qui, on voit des plantes, on va tirer sur les plantes pour qu'elles poussent plus vite. On peut pas faire ça. Il y a un processus de vie. Un processus de vie dont on ne maîtrise pas d'ailleurs, que seul Dieu maîtrise. Et là, donc du coup, ce qui se passe à l'intérieur, c'est comme si une plante, hein, ce qui se passe dans ses racines, ce qui se passe à l'intérieur, un moment donné, on va voir les fleurs au printemps. Okay ? On va voir les fruits après. Et pendant un moment, on peut ne pas le voir. Donc c'est-à-dire que ce que Dieu fait ne peut pas être visible pour un temps, et c'est possible, il y a des saisons. Ou alors des choses que Dieu a plantées en vous n'ont pas encore porté leurs fruits. Et donc du coup, c'est dans notre foi chrétienne, et pour Jésus, il est tout aussi important de ce qui se passe à l'intérieur que l'extérieur. On n'est pas superficiel. On n'est pas un évangile qui parle de choses qui est juste superficielle. Ce qu'il voit à l'extérieur, ça s'est passé déjà à l'intérieur. Et donc du coup, ça a une portée beaucoup plus puissante et beaucoup plus durable. C'est pour ça qu'il parle de ce mot durable, justement. Ok ? Et donc, c'est même quelque part aussi un critère. Dans le sens où si on cherche des gens avec qui on veut passer du temps, avec qui on veut grandir et tout, etc., bah, regardons aux fruits. Regardons à ce qui se manifeste à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. En Galates 5, 22-23, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'aimabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Là, dans Galates, Paul, il nous parle justement le fruit de l'esprit. Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Mais ça parle de ça aussi. Et ce que fait Dieu en nous, ça amène toutes ces choses-là. La patience. J'ai l'impression que plus je vieillis, moi je suis patient, je ne sais pas vous. C'est comme si Dieu me retravaille. Et mes fruits de la patience, ils ont encore besoin de progresser. Alors peut-être j'ai d'autres fruits qui sont meilleurs. Mais la patience, oh là là, c'est dur. Moi, j'aime le côté productif, j'aime le côté efficace. Et ça m'énerve qu'on ait un Dieu qui a un processus de vie qui prend le temps, qui construit les choses petit à petit, mais qui porte des fruits. Voilà. Ça m'énerve mon côté, ma chair. Mais en même temps, mon esprit dit... C'est tellement mieux que juste pousser les choses et être en mode productif comme on fait dans ce monde-là. Et donc, les amis, on est totalement, en quelque part, en contradiction avec nos cultures ambiantes. Construire l'Église, ce n'est pas productif. On n'est pas une entreprise. Il y a des principes de l'entreprise qu'on applique qui sont bons. Mais sur le cœur de ce qu'on fait, en fait, nous, on n'est pas dans la même... On ne fait pas la même chose. On pourrait avoir le même genre de résultat, mais tout le processus n'a pas du tout été le même. Et surtout, on sait que le résultat, ce sera Dieu qui l'aura fait. Il va se glorifier et que ça va porter du fruit chez nos enfants et peut-être pour plusieurs générations. C'est ça qu'on veut. En fait, on est presque... Enfin, c'est Jésus ici qui est exigeant. Mais exigeant, pas pour nous mettre la pression de nous dire « il faut que tu portes du fruit ». C'est... Je suis le cep, tu es un sarment. Laisse la vie rentrer en toi, et alors tu porteras du fruit. C'est tout. Et c'est fou parce que nous, on est en mode, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, demeure en Jésus, et les fruits viendront. Les fruits viendront de façon naturelle. Bien sûr, il y a quelques petites choses à faire, hein. Je ne veux pas vous empêcher de lire la Bible, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est pas que lire la Bible qui va faire quelque chose, c'est le fait que ça va me transformer, c'est l'application de la Bible qui va me transformer. Si la Bible me dit de pardonner et que je pardonne, non seulement la parole est vraie, mais en plus, elle s'est fait chair, ça s'est appliqué dans ma vie et ça va porter un fruit bon et durable pour d'autres personnes. Amen. Donc porter du fruit signifie à minima que ma volonté, elle est alignée à celle de Dieu et que l'évangile me transforme et que ça se voit. C'est hyper important. À un moment donné, il faut que ça se voit. À un moment donné, il faut que l'évangile se voit autour de nous, que le Jésus qui nous a transformés, ça se voit autour de nous. Ok ? Il y a un autre principe j'appelle ça comme ça, après on pourrait l'appeler autrement. Un principe, de, justement j'en ai parlé, de la vie, la fécondité versus un peu la stérilité. En fait, ici, là, vraiment dans ce passage, il parle justement de cette vie. Et j'ai expliqué que c'était un processus naturel. Qu'est-ce que ça veut dire, un processus naturel ? C'est-à-dire que la vie fait que, en fait, on croit, mais il n'y a pas de retour en arrière, en fait. Le processus de la vie naturelle, c'est qu'on ne peut pas être adulte et dire « bon, demain, je veux revenir un adolescent ». Ce n'est pas possible. Ça semble bête ce que je dis, ça semble très logique, mais pourtant la vie, elle est comme ça. C'est qu'en fait, le processus, il va se faire en fait. Et en fait, nous, il faut qu'on laisse le contrôle à Dieu. Il faut qu'on se dise, mais en fait, c'est lui le créateur de la vie. C'est lui qui va faire que les choses vont croître. Vous pouvez planter, mais c'est Dieu qui fait croître. Et donc du coup, ça ne laisse pas la possibilité, même quand on rencontre Dieu, de rester à l'état d'enfant. On est né de nouveau, mais Dieu nous dit, je t'embarque dans cette vie de disciple, et tu, petit à petit, tu vas grandir. Au début, tu vas prendre du lait, voilà, tu ne vas pas manger de la nourriture trop solide parce que ça, tu n'arriveras pas à le digérer petit à petit. Et après, tu vas grandir et tu vas pouvoir manger des gros beefsteaks, voilà, etc. Et en fait, c'est un processus vraiment naturel. C'est peut-être évident pour vous, mais moi, ça me transforme et ça me parle. Et en fait, donc du coup, le processus de vie, en fait, ça nous fait grandir et ça nous fait mûrir. Dans le psaume 1, je crois qu'il est affiché, ouais. 1, 2 à 3, « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsque revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qu'a-t-il fait l'arbre apparaître planté après un courant d'eau, auprès du courant d'eau ? Rien. Ça dépend de notre Jésus. » J'ai donné un autre texte, je pense que tu peux le mettre. Et donc un disciple qui demeure en Dieu, qui est pleinement dévoué, en fait, il va être fructueux. Ça va de toute façon se passer. Donc il va grandir en taille, il va grandir en force, il va grandir en maturité. Et Éphésiens 4, 13 nous le dit aussi, « Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles et entraînés les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. » Donc en fait, ce principe de croissance, il est partout dans la Bible, il est partout dans le Nouveau Testament. Et cette parabole, elle en parle, mais il y a plein d'autres endroits où ça en parle. Ça va ? Est-ce que ça vous parle plus maintenant, ce que ça veut dire, porter du fruit ? Je pense qu'on pourrait dire, on pourrait trouver plein d'autres choses dans la Bible qui parlent de ce côté porter du fruit. Parce qu'à un moment donné, c'est la vie de Dieu. Et comment définir la vie de Dieu, c'est ouf. On pourrait donner plein d'autres expressions ou plein d'autres textes. Je voudrais juste vous montrer, par rapport à un sujet d'actualité, si tu peux mettre la prochaine image, un sujet d'actualité plus intéressant que le détroit d'Ormuz en ce moment. Là, ici, donc ça, c'est, je sais pas pour ceux qui ont suivi, voilà, la fusée Artemis qui est passée, qui est passée de l'autre côté de la Lune. Et en fait, là, les astronautes, ils sont de l'autre côté de la Lune et ils prennent une photo de notre merveilleuse Terre. Et honnêtement, au début, j'ai vu la photo et j'étais là, j'étais un peu surpris. Et après, je priais et tout, etc. Je me dis, mais j'avais oublié à quel point on était petit. Et j'avais oublié encore que notre Dieu était aussi grand. Et c'est... J'aime l'astronomie, j'aime plein d'autres choses, mais ce que j'aime dans l'astronomie, c'est que ça me rappelle rapidement que notre Dieu, il est bien au-dessus de nous. Et ça me remet à ma place. Et c'est un peu comme cette image du sarment. En fait, finalement, le sarment, qu'est-ce qu'il est sans le cep? Il ne peut pas porter la vie. Et c'est comme nos terres, elles ne peuvent pas porter la vie s'il n'y avait pas le soleil qui brillerait ici sur elles. Vous voyez, s'il n'y avait pas le soleil, ce serait le néant, les ténèbres, puisqu'on voit sur la face. Voilà, c'est fou, les amis. Et on a besoin, en fait, de cette lumière. On a besoin de réaliser. Et ça nous met à la bonne place d'humilité. Mais ce n'est pas pour nous dévaloriser. Hein. C'est parce qu'on est des fils et des filles, les amis. Les sarments, ce n'est pas dévalorisant. On est des fils et des filles. Dieu, il prend soin de nous, même si on est tout petit. Il nous aime et il veut qu'on porte du fruit. Et la preuve, ce n'est pas lui qui va faire le fruit. Ce n'est pas Jésus qui va porter le fruit, c'est nous. Donc ça montre aussi une forme de responsabilité. Et pourquoi nous donner autant de responsabilités alors que c'est le Dieu créateur? Waouh! Truc de dingue. Dernier point. Yes, je vais commencer, je vais clôturer. Moi, j'avais, donc je vous le dis, hein, ça nous donne de l'humilité, mais je voulais juste deux expressions qui sont utilisées ici. C'est le mot abondance et durable. Abondance ici, donc le porter du fruit en abondance, c'est au verset 5. Et en fait, ça nous parle d'une forme de multiplication. Donc, bon, j'ai fait un exercice de maths très difficile. En fait, ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'en fait, Dieu, il aime la vie, et la vie, c'est, ça ne va pas suivre des théorèmes mathématiques, etc. Il y a quelque chose qui va se passer qui est miraculeux. C'est que quand on additionne des personnes qui cherchent Dieu ensemble, en fait, ça ne va plus être 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et en fait, ça va porter un fruit bien supérieur à ce qu'il pourrait le faire s'il s'additionnait l'un à l'autre. Et en fait, ça nous pousse aussi à avoir la foi pour que ces choses arrivent. En fait, si vous faites ce que Dieu dit, si vous faites l'Église, si vous amenez le royaume de Dieu là où il est, alors il faut que nous nous attendions à ce que les fruits du royaume arrivent. Et je pense que des fois, on manque de foi par rapport à ça. Là où je vais porter du fruit, pas par rapport à moi, parce que j'amène Jésus là où je vais. J'amène la vie qui est en moi, et il y a quelque chose qui va se passer, et je m'attends aussi au miraculeux. Je m'attends à ce que, en fait, ça va pas respecter les règles humaines. Et il y a aussi le côté durable, consistant, qui n'est pas superficiel, je vous l'ai dit. Il y a cette notion d'éternité. Quand on parle de fruits durables, nous avons la certitude que ce que nous portons, nous allons pouvoir le transmettre à d'autres disciples. De la même manière que l'évangile est parti il y a 2000 ans et arrivé jusqu'à nous, parce que témoin après témoin, l'évangile est venu jusqu'à nous. Et nous allons continuer. Donc quand nous nous laissons transformer, le fruit va rester durable et va transformer d'autres personnes, et peut-être dans d'autres pays, peut-être dans d'autres régions, et dans des zones où Dieu, où les ténèbres sont forts et la lumière de Dieu n'est pas arrivée. Et pourquoi je voulais vous parler de ce texte-là, de porter du fruit, parce que quand j'ai prié par rapport à votre communauté, je me suis dit, l'Église Marguerite, ACM, c'est ça, on dit comme ça, vous pouvez porter plus de fruits. Pas parce que vous êtes super fort, pas parce que vous êtes compétent, parce que vous avez un Jésus incroyable. Et quand je parle de cette notion de foi, de croire que les choses vont être durables et abondantes, je vous encourage en tant qu'Église, mais aussi individuellement, à vous poser la question, comment je peux porter plus de fruits? Seigneur, aide-moi à porter plus de fruits là où je suis. Des fruits qui vont aussi être évidents. Continue à me travailler. Aide-moi à demeurer, Père. et aussi en tant qu'Église. Donc par extension, faire des disciples, c'est porter du fruit, ça veut dire faire des disciples, faire avancer le royaume de Dieu, l'annoncer l'évangile par votre témoignage, implanter des églises ou faire croître votre église, avoir de nouvelles âmes qui sont ajoutées à notre église. Tout ça, c'est aussi, par extension, porter du fruit. Et quand on parle du verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. On peut mettre le mot ACM ou l'église de Marguerite. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi, Marguerite. Je vous ai donné pour mission d'aller, de porter du fruit et du fruit qui soit durable. Et je sens que quelque part, je le dis aux anciens, je le dis à toute l'Église, parce que les anciens, ils ne vont pas y aller tout seuls. Il y a vraiment cette notion de dire, mais quel est, pour moi, le prochain pas pour porter du fruit. Et il y a une notion peut-être d'abandon, de dire, bah, peut-être que je me prends un petit peu trop. J'ai besoin de croire que, de lâcher le contrôle et de croire que c'est toi, Dieu, qui va faire les choses au travers de moi. Donc si ça fait des années, j'ai reçu une parole sur quelque chose à faire pour toi ou un projet ou même des responsables d'église ou des anciens sont venus me voir pour me demander quelque chose et je ne me sens pas capable. Je me dis, mais en fait, oui, tu n'es peut-être pas capable. Mais ce n'est pas la question de cette parabole. C'est, est-ce que tu es attaché à Dieu? Est-ce que tu es attaché à Jésus? Alors Dieu, il fera porter du fruit, quoi que tu fasses. Ok. Pour conclure, peut-être on va se lever, peut-être on va être attentif à ce que le Saint-Esprit veut dire maintenant. On va bientôt terminer, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que ce serait bien, de, si vous le souhaitez, à certains, de répondre à ça. Pas répondre à ce que moi j'ai dit, mais répondre à l'Évangile. Et répondre à ce que Jésus disait là, à ce moment-là. De façon individuelle, on peut répondre collectivement, mais je vous demande aussi individuellement. Et quelque part, bah, s'il y a quelque chose là maintenant qui te bloque, ou peut-être là, quand tu as entendu ces paroles, tu te dis, j'arrive pas à m'attacher à Jésus comme je le voudrais sur certains aspects de ma vie. Et j'arrive pas à laisser la vie, je veux garder le contrôle. Et, peut-être que tu as besoin de prière par rapport à ça, on peut prier pour toi ce matin. Je ne sais pas si vous pouvez même vous avancer, qu'on prie pour vous. Et moi, je voyais ça. Et aussi, je voyais une deuxième chose, c'est une partie, peut-être quelque chose, un blocage, où vous dites, mais Saint-Esprit, j'ai besoin que le Saint-Esprit vienne et qu'on débloque ça. Et une deuxième chose, c'était, vous portez du fruit, mais le Seigneur, il vous dit que vous pouvez en produire plus. Mais il ne vous le dit pas comme il le dirait à un chef d'entreprise ou autre chose. Il vous le dit, laisse ma vie entrer. Et tu vas porter un fruit, mon ami, qui va être délicieux, exquis. Et ça va me glorifier. Et ça va bénir les autres. Ça va bénir l'église ACM, mais ça va peut-être bénir ton entourage et ta famille. Ok ? Donc peut-être pour ces deux choses, si vous voulez, peut-être vous avancer, peut-être pour prier pour ça. Je ne sais pas si on peut mettre un peu de musique, Henri. Voilà. Je pense que c'est bien de prendre le temps de répondre à cet appel-là.